pas comme les autres. Du Trisac. L'original.
Radio.
Du Trisac. Votre plaisir coupable.
Cube Radio.
Bonjour tout le monde, vendredi 4 mars 2021, j'espère que vous allez bien. Alors, on va parler du fait français à Montréal à midi, imaginez donc, c'est encore dans les nouvelles. Et aussi à 11h, le jour de la femme, c'est lundi le 8 mars. Et comment ça se passe pour une femme qui est dans les forces de la gendarmerie royale du Canada? On va aborder la question à 11h. Mais tout d'abord, on a avec nous Rosine Morga, qui est auteure du livre « Rescapé du goulag chinois ». Madame Morga, bonjour.
Bonjour.
Bonjour, merci d'être avec nous. Elle est, vous êtes journaliste au Figaro et vous êtes aussi spécialiste de la question Ouïghour. Alors vous avez recueilli les propos de, j'espère je le prononce bien, Gulbahar Etiwadji, qui est
oui,
une...
Oui, je l'ai prononcé.
Merci. Qui est une Ouïghour qui a été la première rescapée du goulag. Qu'est-ce qui vous a amené à l'histoire de Madame Etiwadji?
Alors, dans un premier temps, en fait, moi, j'écrivais l'histoire de sa fille, Gulumar, du coup, qui apparaît aussi dans le livre, et qui, à l'époque, quand je suis rentrée de Chine, passait sur des plateaux télé en France et dans la presse pour dire qu'en fait, sa mère était emprisonnée dans un camp de rééducation et personne, à l'époque, ne savait trop ce que c'était, personne ne bougeait, le Quai d'Orsay était un peu prudent. Et moi, j'ai raconté, dans un premier temps, l'histoire de la fille, Gulumar. Et de là, en fait, on a tissé une relation qui a continué, où on s'est tenu au courant régulièrement. Et puis un jour, d'août 2019, elle m'a appelée en me disant « Bah écoutez, Rosen, c'est incroyable ce qui se passe. Ma mère revient. Voilà, elle a été libérée et elle arrive à l'aéroport de Roissy, à côté de Paris. » Et donc là, il a été question, bien sûr, de se rencontrer toutes les trois et d'évoquer son histoire qui était absolument dramatique, mais totalement inédite aussi, puisqu'on n'avait jamais entendu quelqu'un revenir de cet endroit-là et raconter ce qui s'y passait vraiment. Il y avait que des suppositions. Et de là est née progressivement l'idée d'un livre, en fait.
Et c'est particulier, Mme Morga, parce que Mme Etiwadji dit dans le livre, quand elle a appris que sa fille faisait les plateaux de tournage, elle se disait, ça, la situation va empirer, là, ça va aller de mal en pis. Et au contraire, ça vous a permis d'entrer en contact avec elle et de raconter son histoire.
Oui, tout à fait. Et en fait, c'est quelque chose de très intéressant ce que vous soulignez, parce que le Quai d'Orsay, à l'époque, qui faisait les négociations avec la Chine, au début, se posait la question de savoir si la médiatisation de la situation de Mme Etiwadji était une bonne chose ou pas par sa fille, si ça allait pas lui créer du tort. Et en fait, on s'est rendu compte que plus c'était médiatisé, que plus c'était mis en avant, plus finalement la Chine en face trouvait... je veux dire, se comportait dans le compromis et dans la libération potentielle de Mme Etiwadji.
Ouais.
Ça c'était en fait une très bonne chose, en fait, que ça soit très médiatisé.
C'est un récit captivant parce que il y a toutes sortes d'entourloupettes de la part du gouvernement chinois pour ramener Mme Etiwadji au pays qu'elle avait quitté en 2006, là, sauf erreur, pour la France. Et c'est vraiment un piège qu'on lui a tendu.
Tout à fait, oui. En fait, on l'a fait revenir. En fait, elle vivait depuis 10 ans avec sa famille en France. Elle était immigrée. Elle est partie avant que les troubles vraiment prennent de l'ampleur en 2009. Donc, elle est arrivée en 2006 ici, à Paris. Et elle s'est installée là, elle a trouvé du travail, etc. Donc, elle était totalement... Elle revenait au Xinjiang une fois de temps en temps pour voir sa maman et ses sœurs. Mais elle avait une relation de plus en plus distante avec le Xinjiang et elle travaillait plus. Enfin, elle travaillait en France, mais elle avait quitté son emploi de là-bas, qui était un emploi d'ingénieur dans le pétrole. Et en fait, ce jour de novembre 2016, quand son ancien employeur l'appelle, c'est pour prétexter des papiers à signer dans son ancienne entreprise en vue de sa retraite. Et on lui dit qu'il n'est pas possible de faire procuration et qu'il faut que ce soit elle qui revienne. Donc elle se fait piéger comme ça, où elle se dit « bon, bah, je vais passer 15 jours au Xinjiang et m'occuper de cette paperasse et je reviendrai ensuite chez moi ». Et en fait, elle n'est jamais revenue et elle y a passé quasiment 3 ans.
Et son mari, qu'elle défend tout le long du livre, Madame Etiwadji, elle défend son mari qui lui dit « vas-y, il y a pas de danger, tu reviendras ». Il avait tort, son mari, là. Faudrait lui dire, cet homme-là.
Et son mari, en fait, vous savez, il est très politisé, contrairement, enfin, il a un œil beaucoup plus politique que celui de Gulbar. Il est, pour le coup, c'est quelqu'un qui s'intéresse à la politique de son pays et à la politique de sa province. Donc, il manifestait déjà en 85 pour demander une plus grande indépendance du Xinjiang, qui était contre cette colonisation des Han, donc l'ethnie majoritaire chinoise, dans la province. Donc, c'était quelqu'un qui était déjà assez aguerri, en fait, par rapport, il avait été souvent sous le contrôle de la police, il était régulièrement invité, comme on dit, à boire le thé dans des commissariats, c'est-à-dire en fait à aller passer des interrogatoires avec des policiers. Donc il pensait vraiment sincèrement que le fait que lui-même soit réfugié politique, ça protégerait sa femme, et sa femme serait considérée comme une citoyenne désormais française, et que la police du Xinjiang ne pourrait pas l'arrêter et la retenir comme ça des années. Donc il était assez confiant dans le sens où, enfin voilà, la répression elle existait déjà, mais en fait on n'avait pas du tout idée de ces camps. Enfin, je veux dire, les camps c'était quelque chose de, c'est apparu au moment où Gulbar se retrouve au Xinjiang. Donc en fait on n'avait aucune idée de ce que c'était. La répression existait, mais on savait pas qu'on pouvait envoyer des gens comme ça pour X années dans des endroits qui étaient des soi-disant écoles, et en fait qui sont des camps de rééducation. Donc Kerim, quand il lui donne ce conseil-là au début du livre, c'est plutôt qu'il n'a aucune idée de ce qui se passe à ce moment-là au Xinjiang, en fait.
Et ça dure, Mme Morga, ça dure environ trois ans. Et les autorités chinoises veulent faire avouer quel crime horrible à Mme Etiwadji, au juste.
Les autorités chinoises l'accusent de terrorisme et prennent comme argument une photo de sa fille dans une manifestation parisienne pro-Ouïghour. Donc sa fille agite un drapeau du Turkestan oriental. Pour les auditeurs, le Turkestan oriental, c'est le Xinjiang revendiqué en tant que pays indépendant et autonome. Et sur la base de cette photo, on lui dit qu'elle est une terroriste et qu'elle crée du séparatisme à l'étranger, et que pour cette raison, elle va être rééduquée.
Et vous faites...
Puisque Gulbar, elle n'a jamais participé à des manifestations, et c'est quelqu'un de totalement pacifique et d'apolitique.
Ces trois années, c'est fascinant à lire, et c'est horrible à lire en même temps, Mme Morga. Ces trois années, entre autres, presque trois semaines où elle est attachée à son lit, elle est maltraitée, elle est mal nourrie, elle est frappée. Il y a une espèce de torture psychologique aussi qui s'ensuit. Aucune présence d'avocat, aucune présence de quoi que ce soit. Là. Elles se retrouvent, ces femmes-là, ensemble, à perdre espoir.
Tout à fait. Et en fait, c'est la particularité de ces camps de rééducation, c'est que c'est un système illégal, en fait, qui est totalement parallèle à la justice de la Chine et du Xinjiang. Donc, il n'est pas du tout... On ne parle pas de prison, on ne parle pas de jugement officiel devant un juge. Tout ce qui se passe dans cette sphère des camps et de la rééducation est quelque chose de totalement à part, qui est complètement inspiré de l'ère des camps et du goulag chinois de l'ère de Mao, en fait, et qui répond à des règles qui ne sont pas les mêmes. Donc on est dans le flou le plus total, et c'est pour ça qu'elle le dit très bien à un moment, quand elle est jugée, soi-disant, la personne qui se trouve en face d'elle et qui la condamne à 7 ans de rééducation, ce n'est pas un juge, c'est un policier. C'est vraiment la particularité de ce système, et le caractère extrêmement tentaculaire et dangereux de ce système, c'est qu'il ne rentre pas dans le cadre d'une législation chinoise officielle.
Ouais. À la page 40 de votre livre, Mme Morga, vous expliquez les origines de ce conflit, en tout cas où ça a éclaté entre la communauté Ouïghour et la communauté Han en juillet 2009. Il y a eu des manifestations, et c'est à partir de ce moment-là où les choses ont dérapé.
Alors, on peut dire que c'est le point récent le plus frappant, celui qui a fait basculer le Xinjiang dans une répression encore plus forte. Mais la répression, elle a toujours existé. Le Xinjiang, il est annexé par la Chine depuis 1949. Donc, il est considéré comme une province autonome de la Chine. Et la répression, elle est arrivée petit à petit, progressivement, de petites discriminations en grandes intrusions. Vous voyez, on arrive à la rééducation. Et c'est quelque chose qui a toujours existé, que les Ouïghours ont toujours vu. Et c'est pour ça que la famille Etiwadji a fini par partir. Mais c'était contre son gré, parce qu'en fait, elle se disait, bon, on est discriminé à l'emploi, on se rend compte qu'on n'embauche plus d'Ouïghours, etc. Nous, finalement, on a toujours vécu avec ça, donc c'est quelque chose de normal, mais c'est quand ils ont pensé à leur fille et à l'avenir de leur fille qu'ils ont commencé à dire qu'il fallait partir. Donc 2009, les émeutes de 2009, c'est vraiment, je pense, c'est le point de rupture le plus fort, puisque c'est des émeutes qui sont sanglantes, qui se terminent dans un bain de sang. Il y a des Ouïghours séparatistes qui attaquent des Han et d'autres Ouïghours. Et il y a une réplique très, très, très violente de la police Han, et donc il y a des centaines de milliers de morts, en fait. Même ouais. Les chiffres officiels sont complètement dégonflés par rapport à la réalité.
Deux, trois choses avant qu'on se quitte, Mme Morga. D'abord, l'impact sur la santé de Mme Ayti Wadji est sérieux, là. Elle a été libérée en 2019. Sous quelles conditions et dans quel état?
Elle a été libérée en 2009 dans des conditions, comment dire. En fait, ce que fait la Chine dans ces cas-là, c'est qu'ils vous rendent pas directement à la sortie des camps. Donc, ils l'ont mis, et ça, c'est dit dans une partie du livre aussi, c'est qu'il y a toute une période où elle sort du camp de rééducation et on la met dans une espèce de maison d'arrêt entourée par des policiers, puis dans un appartement, mais toujours sous surveillance avec des policiers, et où on la retape, entre guillemets. Donc, on la nourrit, on lui donne une qualité de vie un peu supérieure, mais bon, elle est toujours dans une forme d'emprisonnement. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on essaye de la rendre dans un état correct, où qu'elle reprend du poids, etc. En revanche, il y a des séquelles qu'elle gardera à vie, c'est qu'elle a passé des années à vivre sous une lumière aveuglante, parce que c'est l'une des techniques de torture qu'ils utilisent là-bas, c'est de vous faire perdre toute notion du jour et de la nuit avec cette lumière en permanence. Elle a une mémoire à court terme et à long terme qui est totalement impactée, puisque on lui a bourré le crâne pendant des années, donc c'est très dur pour elle de récupérer aussi tout un tas de souvenirs, tout un tas de choses qui se sont passées avant. Elle a une mémoire défaillante, elle sursaute au moindre geste un peu brusque où, vous voyez, il y a un jogger qui passe dans la rue à côté d'elle, elle va avoir un mouvement de sursaut et de peur parce qu'elle, donc c'est totalement plus fort qu'elle. En fait, il y a des choses comme ça, des réflexes qu'elle a encore.
Est-ce qu'elles ont vraiment été stérilisées, vaccinées contre leur gré, évidemment?
Madame Ayti Wadji, elle a vu des choses, elle a été vaccinée deux fois, à deux reprises, toutes les femmes aussi autour d'elle, et elle a eu un très très fort soupçon, puisque en fait elle s'est rendue compte que toutes les femmes autour d'elle perdaient leurs règles et s'en plaignaient, mais à ce moment-là, elle a eu un très fort soupçon, mais c'est seulement quand elle est revenue en France et qu'elle a entendu parler, comme tout le monde, du rapport d'Adrian Zenz sur la stérilisation, qu'elle s'est dit que probablement c'était de la stérilisation, mais c'est pas quelque chose qu'elle affirme, elle peut pas le prouver, en fait, avec ce qu'elle a vu dans les camps.
Bon.
Mais elle a un fort soupçon.
Ouais. Justin Trudeau, ici, le premier ministre du Canada, a refusé de dire qu'il s'agissait d'un génocide. De quel avis êtes-vous?
Je pense qu'il faut absolument qualifier ce qui se passe au Xinjiang. C'est nécessaire pour que quelque chose se passe, en fait. Parce que parler de camp de rééducation sans parler de génocide, c'est totalement... vous voyez, c'est extrêmement étrange.
Ouais.
On peut pas... Il y a une vraie extermination progressive et lente de la population. À partir du moment où on stérilise une partie de la population, c'est qu'on entend la détruire à long terme. Donc il faut absolument que le mot génocide soit officialisé sur ce qui se passe au Xinjiang.
En même temps, en conclusion, Mme Morga, on constate aussi que la Chine envers la communauté Ouïghour, mais aussi l'Égypte envers les chrétiens, le Pakistan envers... On se souvient de l'histoire d'Asia Bibi. On a la Canadienne Nathalie Morin qui est détenue contre son gré en Arabie Saoudite. C'est pas unique à la Chine, là, ce genre de traitement-là.
Non, pas du tout. Ouais. Mais je pense que vraiment la Chine a un pouvoir extrêmement fort puisqu'elle siège dans des instances internationales au même titre que d'autres, que des démocraties. Et c'est extrêmement pernicieux parce que, vous voyez, elle a été élue au Conseil des droits de l'homme l'année dernière. Enfin, je veux dire, quand un pays comme
l'Arabie Saoudite, d'ailleurs.
Oui, c'est extrêmement dangereux parce que ça veut dire que toutes les analyses, toutes les expertises qui vont être pratiquées par des experts en droits de l'homme vont être totalement faussées et qu'on n'arrivera à rien. Donc tant que la Chine siégera et que les démocraties complaisantes la laisseront siéger à des endroits comme cela parce qu'elle a du pouvoir, ça ne pourra pas avancer, en fait.
Alors, Rescapé du goulag chinois aux éditions Équateur, Rosanne Morga, merci d'avoir pris le temps de nous parler.
Merci
bonne chance.
Beaucoup.
Au revoir.
Merci, bonne journée, au revoir.